I'm a big comic book fan. Suppose you said, well, Batman, the Martian Man, out of the Green Lantern, well, these are clearly just fiction, but Superman. Now that really happened. There's just no reason to think that. They're all comic books. And so I just see the same thing. In fact, there's this great 60s story about Superboy. He somehow gets a hold of a history book from the future. He can travel through time. And he sees in this history book that they say, well, there used to be many fantastic characters of folklore that never existed. Santa Claus, William Tell, Paul Bunyan, and Superboy. Hey, what's this? And so he goes into the future to demonstrate to these people that he was a real historical figure. Well, though the joke's on the reader, right? Because there wasn't a Superboy. Even this is just a story. And it seems to me that's what's going on with all these apologies. Yeah, this dying and rising God who went through the whole thing, this one is true. Apollonius of Tyana? Oh, no, that's just silly. But Jesus, six of one, half a dozen of the other. I don't think it would be better if there were no Jesus. It's a matter of indifference. And there might have been, but it just seems to me the burden of proof is on the person who would say that there was, because it's just special pleading again. You want special treatment for your favorite Savior.
Scientifique, le balado de la science et de la raison. Épisode 46, pour le samedi 17 avril 2010, les origines mythiques du christianisme. Dans cet épisode, je vais interviewer Marc Allais, qui est un sceptique fort bien connu pour ses travaux, aussi bien sur la vague belge d'OVNI que sur le contacté Georges Adamski, ou encore sur les visions mariales. Mais dans cette interview, je vais discuter avec lui de la thèse mythiste et donc de la question de savoir s'il y a eu un Jésus historique. J'écoutais récemment un nouveau balado qui vient de commencer en anglais, un balado sceptique, et qui s'intitule « Actually Speaking, How to be a Skeptic and Still Have Friends ». Donc, comment être un sceptique et encore avoir des amis. Et c'est un balado très amusant, très intéressant, parce qu'il discute de comment communiquer, particulièrement à son entourage, à ses proches, ou même sur Internet, son scepticisme, une sorte de donner des stratégies un peu pour une communication efficace, pour éviter d'être un sceptique, on a tendance un peu à être agressif, je vais pas rentrer dans les détails sur ce sujet-là, mais un des sujets qu'il a abordé dans un épisode, c'était l'importance de souligner que nous aussi, nous sommes en train sur un parcours et que notre position a changé au cours du temps et que notre position a tous évolué. Et donc, je n'ai pas toujours eu les positions que j'ai à l'heure d'aujourd'hui. Et donc, en soulignant cela, on invite les gens à qui on parle à se mettre aussi en chemin et à rechercher. Le scepticisme, c'est une démarche et pas un ensemble de dogmes. Et si je parle de ceci, c'est parce que, ma position sur la thèse mythiste a pas mal évolué au cours des années. Au départ, j'étais aussi, je pense, la position un peu standard, qui est tout semble indiquer qu'il y a eu un Jésus historique, parce que je ne connaissais pas bien le sujet. Et puis, il y a eu différents sceptiques ou des zététiciens qui ont abordé le sujet. Bon, Paul-Éric Blanru, qui est un historien et un zététicien, a commencé à défendre la thèse mythiste en France. Et puis il y a eu aussi Michel Onfray qui aborde ça dans certains de ses ouvrages. Marc Allais, que je vais interviewer aujourd'hui. J'ai lu tout ça et au fur et à mesure, bon, vous savez, quand vous entendez ce genre de choses, ça fait petit à petit et ça fait son chemin. Je pense que celui qui a été la plus grande influence pour moi, c'est le théologien Robert M. Price, qui a écrit plusieurs ouvrages sur le sujet, qui est vraiment impressionnant par la somme de connaissances qu'il a sur le sujet. Il a un balado, j'ai lu plusieurs de ses livres, mais il a un balado qui s'intitule The Bible Geek, donc le geek de la Bible, parce qu'il dit toujours qu'il est un fan de la Bible et que quand il déconstruit la Bible, en fait, c'est parce qu'il a envie de savoir ce que la Bible dit réellement et pas ce que les évangéliques ou les fondamentalistes ont envie de lui faire dire. Et aussi, maintenant, tout nouveau, il est sur le balado Point of Inquiry, qui est le balado du Center for Inquiry. Une fois par mois, il fait l'interview d'un théologien. Et vraiment, je crois que écouter chaque semaine Robert M. Price parler de comment lire la Bible, son balado est extrêmement pointu, je dois dire. Et non seulement il est donc de Bible Geek, c'est très pointu, et en plus il y a pas d'emballage, quoi, il y a pas de musique, rien. Il prend les questions des gens. J'étais vraiment impressionné, parce qu'à un certain moment, il avait des gens dans une chatroom et il lisait les questions et il répondait comme ça du tac au tac. Le gars a une culture encyclopédique, c'est phénoménal. Mais en tout cas, de l'entendre discuter et donc expliquer chaque semaine pourquoi, comme je le disais précédemment sur ce balado, Robert M. Price est agnostique de l'existence de Jésus. Il considère qu'on ne peut pas. Il n'y a pas moyen de déterminer à l'heure actuelle s'il y a eu un Jésus historique ou non, véritablement. Et donc, écouter comment il raisonne et comment il aborde le sujet, je dois dire que ça, au cours des années, ça a largement emporté mon adhésion. Et donc aujourd'hui, je dirais aussi que ma position, c'est que je ne sais pas s'il y a eu un Jésus historique ou non. Et comme dit Michael Shermer, je suis un agnostique militant, je ne sais pas, et vous non plus. Donc je suis extrêmement dubitatif des gens qui affirment qu'il est certain qu'il y a eu un Jésus historique ou qui disent qu'ils savent qu'il y a eu un Jésus historique. Je suis toujours là, comment est-ce que vous pouvez être certain qu'il y a eu un Jésus historique? Je ne pense pas qu'il y ait des raisons valables d'être certain qu'il y a eu un Jésus historique. Donc voilà, c'est encore un des nombreux sujets sur lesquels mes positions, mon opinion a évolué au cours du temps. Nous allons donc maintenant passer à l'interview de Marc Allais, qui va nous donner une introduction à ce sujet fascinant. Alors aujourd'hui, je suis avec Marc Allais, qui est un sceptique belge bien connu, qui a écrit un certain nombre d'ouvrages et de plaquettes. Bon, il y en a trop pour toutes les nommer, mais enfin, il y a « Quand les scientifiques déraillent ». Et il a écrit pas mal sur la question de la vague belge, ainsi que sur les vision mariale, mais aujourd'hui je l'ai invité pour discuter avec nous de son ouvrage Les origines mythiques du christianisme. Bonjour.
Bonjour.
Première question, qu'est-ce qui, dans ta carrière, tu as abordé énormément de sujets différents, mais qu'est-ce qui t'a amené à écrire un ouvrage sur les origines du christianisme?
C'est quelque chose qui remonte à mes 20 ans. À l'époque, j'ai rencontré un homme plus âgé que moi, avec lequel j'ai eu toute une série d'entretiens sur les mystères divers, que ce soit les ovnis, la parapsychologie. Et un jour, dans une conversation à bâton rompu, je lui ai parlé des certitudes historiques et j'ai mentionné parmi celles-ci l'existence de Jésus. À ce moment-là, il m'a repris, il m'a dit non, il existe des quantités de livres qui contestent cette existence. Sur le moment même, j'ai estimé que c'était une pure folie. Mais comme je suis curieux de nature, je me suis rendu le plus vite possible dans une bibliothèque dans la ville. Et là, j'ai cherché des livres qui pouvaient traiter de ce sujet. Ça n'a pas été facile du tout. Mais disons que je suis sorti de cette bibliothèque avec deux ou trois livres, dont un d'un certain abbé de Loisy. J'ai lu ça. Je dois avouer que au départ, je n'ai pas compris grand-chose, parce qu'il traitait de choses qui pour moi étaient tout à fait nouvelles. Mais j'ai au moins eu une certitude, c'est que cet abbé démontrait que le sacrement de l'Eucharistie, tel que nous le connaissons habituellement dans l'Église catholique, est une pure invention, une véritable mystification. Alors rien que cela a suffi à me piquer au vif, et j'ai donc décidé de continuer à rechercher des livres sur le sujet. Alors après avoir lu et relu le livre de l'abbé Loisy, j'ai commencé systématiquement à reprendre toutes les références qu'il citait, tous les auteurs, et à essayer de retrouver ces livres. Et ainsi, peu à peu, j'ai commencé à lire des livres qui traitaient de manière un petit peu diverse de ce sujet-là. Et finalement, je suis tombé sur des livres qui contestaient la réalité même du personnage de Jésus. Là, vraiment, c'était extrêmement intéressant. Et à partir de ce moment-là, je n'ai pas hésité à me plonger davantage dans cette recherche et, à ce moment-là, à acheter des livres. Et donc, pendant des années et des années, j'ai acheté des livres jusqu'au moment où j'ai eu envie de faire un résumé. Ce fut un premier résumé personnel qui était, je dois dire, assez virulent. Parce que, à force de lire des livres sur ce sujet, j'avais acquis un véritable rejet de l'Église catholique et du christianisme. Et donc, ce résumé que j'ai fait, qui n'a jamais été édité, était un véritable pamphlet. Je l'ai laissé lire à deux ou trois personnes qui m'ont donné quelques conseils. Et puis, à nouveau, ma route a croisé celle d'un monsieur qui avait fait le même type d'études, qui habitait en Espagne, et qui m'a persuadé de rédiger un ouvrage bien charpenté. À ce moment-là, je me suis mis à l'œuvre. Heureusement, à l'époque, j'avais déjà troqué ma machine à écrire contre un ordinateur, ce qui m'a permis d'aller beaucoup plus vite que je ne le pensais. Et en l'espace de quelques mois, l'ouvrage était prêt. J'en ai fait un tirage extrêmement réduit, que j'ai confié à quelques personnes, et j'ai été vraiment étonné de l'accueil qu'il a reçu, parce que ces personnes m'ont dit, pour la plupart, qu'ils n'avaient jamais rien lu de semblable, bien qu'ils se soient intéressés au sujet en question. Ce qui était intéressant dans ma démarche, selon eux, c'est que je n'étais pas partisan d'une seule hypothèse. Je considérais, et là on retrouve un petit peu ce que j'ai dit bien souvent au sujet de la vague OVNI belge, il y a des gens qui ont un défaut majeur dans la vie, c'est qu'ils choisissent une hypothèse et la défendent bec et ongles. Et pour eux, ils expliquent des tas de choses très différentes les unes par rapport aux autres par une seule et même hypothèse. Ce qui évidemment aboutit bien souvent à des ouvrages que l'on a tendance à rejeter parce qu'on trouve que c'est un petit peu trop exagéré, disons. À l'inverse de ces gens-là, j'ai essayé de prendre pour chaque partie du sujet, donc du christianisme, voire même de l'ensemble des religions, j'ai essayé de prendre les hypothèses qui étaient les plus recevables. Et donc je ne suis pas un homme qui défend une hypothèse, je suis un homme qui défend des hypothèses différentes. Mais pas seulement des hypothèses, mais également des faits historiques tout à fait démontrés. Et donc l'ouvrage que j'ai fini par écrire, à la demande encore d'autres personnes, c'est en fait une troisième mouture, basée bien entendu principalement sur la seconde, mais avec quelques petits chapitres qui ont été approfondis. Et cette troisième mouture a comme caractéristique essentielle donc de reprendre pour chaque partie du sujet les théories, les thèses ou les faits qui sont le mieux acceptés par les spécialistes du genre. Voilà donc quelle a été ma démarche. C'est quelque chose qui a duré pratiquement une trentaine d'années.
Est-ce que tu as toujours été athée ou quelle est ta position vis-à-vis de la religion? Probablement que ça intéresse les auditeurs.
Pas du tout. Au départ, j'ai été élevé, je vais dire, dans une ambiance plus ou moins catholique. Je fréquentais l'église, j'ai même été dans une école catholique au niveau de mes études primaires. Je communiais relativement peu fréquemment, disons deux ou trois fois l'an peut-être. J'ai eu le baptême, j'ai fait ma communion, la petite, la grande, la confirmation. Et bon, à ce moment-là, j'étais arrivé à un âge de grand adolescent. Et j'ai commencé peu à peu à me sentir mal à l'aise vis-à-vis de cette église, mais je vais dire que c'était plutôt son aspect un peu antique qui me heurtait, et sa rigidité au niveau, de la morale bourgeoise. Donc, je me suis un peu détaché, mais j'ai conservé toutes les croyances qui m'avaient été enseignées dans mon école primaire, c'est-à-dire la divinité de Jésus-Christ, l'existence d'un Dieu en trois personnes, etc. J'ai conservé donc la croyance à tous ces dogmes. Et c'est à partir du moment où j'ai commencé à lire des ouvrages spécialisés en la matière que ces croyances ont commencé, je vais dire, à se dissoudre les unes après les autres. Je suis resté longtemps partisan de l'idée que Jésus-Christ avait été une espèce de thaumaturge, un personnage que l'on avait peut-être mal compris et que l'on avait peut-être divinisé à tort. Je gardais comme principale preuve de son existence le suaire de Turin. ça, ça remonte quand même à de nombreuses années. Et puis, je me suis rendu compte que ce tissuaire était très probablement un faux. C'était déjà bien avant la célèbre datation carbone 14. Mmh. Et à partir de ce moment-là, il n'y avait plus aucune preuve pour moi de l'existence de Jésus. Plutôt, il y en avait, je vais dire, il y avait des preuves inverses de son existence. C'est-à-dire que là où on aurait dû trouver des traces de son passage, de son activité, il n'y avait strictement rien. C'est-à-dire que dans les historiens qui ont vécu à cette époque, disons sur un ensemble de 1 ou 2 siècles, eh bien ces historiens n'en ont rien dit, ou ce que l'on dit qu'ils en ont dit, ce sont de toute évidence des passages qui ont été surajoutés, longtemps après. Et donc pour moi, cette absence de témoignage était la meilleure preuve de l'inexistence de Jésus. Je pense qu'il faut faire dès le départ une grande différence entre deux choses qu'il ne faut pas confondre.
Okay.
C'est le fait que donc j'ai perdu toute forme de religion à force d'étudier les religions, mais cela ne signifie pas nécessairement l'athéisme. Je pense que pas mal de gens peuvent, en étudiant les religions, se rendre compte qu'elles sont des œuvres strictement humaines, qu'elles ont été fabriquées de toutes pièces dans des buts bien précis, des buts en général, je dirais, politiques. Mais cela n'a rien à voir avec la croyance ou non en un Dieu. Alors, tu me posais la question tout à l'heure en me demandant si j'étais athée depuis le départ. Je suis devenu athée. Mais l'athéisme, c'est tout autre chose. L'athéisme ne repose pas sur une analyse historique. C'est en fait une analyse strictement personnelle où on pèse le pour et le contre dans toute une série de choses. Et je devais dire que, pour moi, ce qui m'a le plus marqué au niveau de cette analyse, c'est l'étude que j'ai pu faire dans le domaine de l'astronomie et de l'astrophysique. Je considère, étant donné ce que l'on croit savoir de l'univers, étant donné également ce que l'on croit savoir des origines de cet univers et des origines de la vie, je considère qu'il n'y a pas là manifestation évidente, je vais dire, d'un processus créatif, d'un processus divin créatif. Et donc j'aurais tendance à dire que certains scientifiques, on peut très aisément se passer de l'hypothèse Dieu. Et en conséquence, j'agis dans ce domaine comme en d'autres. Pour croire en un Dieu maintenant, j'aimerais trouver une preuve de son existence. Je n'en ai pas encore trouvé, donc je n'y crois plus jusqu'à nouvel ordre. Voilà ma position actuelle. Mais c'est une position, j'insiste bien sur la chose, elle n'a strictement rien à voir avec l'étude historique des religions, qui elle est basée sur des faits tangibles, et elle est quelque chose de strictement personnel. C'est-à-dire c'est quelque chose, à mon sens, qu'il ne faut pas chercher à imposer, ni même, je vais dire, à discuter. Chacun a son opinion à ce sujet et elle est tout à fait respectable. Voilà, ça c'est une mise au point, je crois, qui était nécessaire.
Oui, oui. Pour en revenir donc à l'historicité de Jésus, évidemment, bon, les chrétiens, ce qu'ils vont dire, ceux qui défendent l'idée qu'il y a eu un Jésus historique, ils vont dire, mais bon, ok, les historiens de l'époque ne parlent pas de Jésus, mais les preuves, ce sont les évangiles. Les évangiles mentionnent Jésus, donc on a des documents qui mentionnent Jésus. Donc là, les Nouveaux Testaments et les épîtres de Paul prouvent l'historicité de Jésus. Qu'est-ce que tu réponds à ça?
Je réponds à cela que les évangiles, je dirais l'ensemble du Nouveau Testament, donc qui comprend les évangiles, toute une série de lettres que se sont échangées les individus à l'époque, et également l'Apocalypse, je dirais que tous ces textes appartiennent en fait à un groupe d'individus relativement restreint qui étaient dépositaires tous plus ou moins d'une même croyance. C'était une croyance messianique. Mais chez chacun d'eux, cela se remarque lorsque l'on analyse les choses très en détail, chez chacun d'eux, cette croyance varie un peu par rapport aux autres. Bon, je vais te donner un exemple. Si on lit par exemple les évangiles, ils ont été de toute évidence écrits par des gens qui étaient persuadés que Jésus était bel et bien un personnage qui était né d'une femme ou d'une vierge, qui avait vécu parmi nous, qui avait marché, qui avait mangé parmi nous, qui avait dormi. J'avais eu donc toutes les apparences d'un homme, je vais dire, comme toi et moi. En revanche, il existe d'autres évangiles qui ne sont pas entrés dans les textes canoniques, évangiles et textes divers, où Jésus a une toute autre apparence. Il est décrit comme une espèce de fantôme, c'est-à-dire une créature surhumaine qui, lorsqu'elle marchait, ne laissait pas d'empreinte sur le sol, donc qui avait l'air de flotter plus ou moins au-dessus du sol. Une créature qui, lorsqu'on voulait la toucher, on passait purement et simplement à travers. Une créature qui, lorsqu'elle était sur la croix, se moquait du monde en disant « j'ai l'air d'être cloué, mais en réalité ce n'est qu'une image qui est visible, moi je ne suis pas là ». Donc, quelque chose de très différent de ce que nous concevons habituellement au sujet de Jésus. Si nous regardons maintenant, par exemple, les textes de Paul, on s'aperçoit que Paul a une vision de Jésus qui est beaucoup moins précise que celle des évangiles. Par exemple, Paul ignore toute une série de choses, de faits, de personnages qui sont cités dans les évangiles. Pour Paul, il semble que Jésus soit en quelque sorte descendu, adulte, du ciel, d'un coup, et qu'elle ait commencé directement à enseigner. Si maintenant on regarde l'Apocalypse, l'Apocalypse nous présente encore tout autre chose. Elle nous présente le Messie comme une espèce de phénomène cosmique, une créature immense qui serait, je vais dire, quasi céleste, c'est-à-dire qu'elle serait visible davantage dans les constellations que dans toute autre chose. Donc voilà plusieurs facettes différentes d'un seul et même personnage que des gens qui ont eu une culture, je vais dire, relativement simple au niveau du catholicisme ou du christianisme, seraient bien étonnés de découvrir. Pour la plupart des gens, Jésus, ben, c'est un personnage comme toi et moi. Mmh. Et donc, il faut savoir que le Nouveau Testament, qui comprend donc les textes canoniques qui ont été retenus par l'Église, eh bien, en son sein, on trouve déjà plusieurs formes différentes du personnage Jésus. Et ce sont des formes extrêmement différentes, puisqu'elles vont de la créature totalement impalpable céleste à la créature qui devient déjà un petit peu plus humaine, plus visible, qui n'est qu'une image, et puis une créature qui est extraordinaire, qui apparaît d'un coup, et puis, enfin, un personnage qui a eu besoin, pour venir sur Terre, de naître d'une femme ou d'une vierge. Ce personnage, au fur et à mesure du temps qui a passé, parce que si on reprend les textes et si on les analyse chronologiquement, on s'aperçoit qu'au fur et à mesure que le temps passe, ce personnage prend de la consistance. C'est-à-dire qu'au départ, tout à fait inconsistant, phénomène cosmique, il devient peu à peu un être de chair qui a vécu comme n'importe quel être humain.
Oui, parce que parlons un peu de la chronologie, justement, les épîtres de Paul sont antérieures aux évangiles, et lui, il semble ignorer, comme tu disais, pas mal d'aspects du Jésus historique. Et puis dans les évangiles, il y a l'évangile de Marc qui a été certainement écrit en premier, avec le document Q. Tu peux en dire un mot, tout ça?
Oui, eh bien justement, c'est ce que je te disais. Plus on avance dans le temps vers nous, et plus le personnage de Jésus prend de la consistance, non seulement par rapport à lui-même, mais par rapport à son entourage. C'est-à-dire que peu à peu, on le dote d'une famille, d'amis, d'apôtres, de disciples, etc. Alors que tout au départ, quand on relit soit l'Apocalypse, soit Paul, eh bien cet entourage est quasi inexistant, à part évidemment des disciples. Et Paul lui-même ne prétend pas avoir rencontré Jésus. Il en a eu une vision. En revanche, maintenant, si on regarde les évangiles, les spécialistes distinguent deux types d'évangiles. Il y a les synoptiques, qui sont trois. Il y a l'évangile de Jean, qui est singulièrement différent des trois autres. Pourquoi? Les trois synoptiques ont des textes que l'on peut plus ou moins présenter en colonne, et on constate qu'ils racontent plus ou moins la même chose avec, disons, des épisodes plus ou moins semblables. Il y a des petites différences, mais enfin bon, n'entrons pas dans les détails. En revanche, l'évangile de Jean, lui, semble beaucoup plus symbolique. On dirait que la personne ou les personnes qui ont écrit l'évangile de Jean avaient davantage comme souci de présenter un texte littéraire avec de grandes idées, tandis que les trois autres évangiles présentent non pas un texte charpenté littérairement de belle manière, mais plutôt une sorte de récit au jour le jour. Ce récit variant donc légèrement de l'un à l'autre, par exemple, Marc n'a pas du tout de récit de l'enfance. Pour Marc, les choses commencent à partir du moment où Jésus est adulte, il a 30 ans, il commence à prêcher. Alors que Matthieu et Luc, eux, racontent la conception virginale, le voyage de Marie à Bethléem, la naissance de Jésus, l'enfance de Jésus, sa disparition dans le temple, etc. Et également la tentation dans le désert. Il le raconte certes de manière un peu différente l'un et l'autre, mais ce sont des épisodes qui ne figurent pas dans Marc. Même chose également à la fin de la vie de Jésus, il y a des épisodes qui se trouvent chez les uns et les autres qui ne figurent pas dans les autres. Donc, on voit que à la fois au début et à la fin de la vie de Jésus, il y a des épisodes qui semblent avoir été ajoutés au fur et à mesure que les années passaient, et dans le cadre même de la vie de Jésus, en tant que, je vais dire, prêcheur, prédicateur, il y en a aussi, selon les uns et les autres, des épisodes qui varient, qui divergent, et qui sont parfois plus considérables chez les uns que chez les autres. Par exemple, dans un évangile, on va dire qu'il a guéri une personne, et dans l'autre, on verra, pour un fait qui semble identique, qu'il en a guéri 10. Il y a donc une volonté d'exagération. Alors les spécialistes, en se basant sur ces différences, ont classé chronologiquement les évangiles comme suit. Le premier serait celui de Marc, qui semble assez proche d'un texte relativement hypothétique, qui lui n'aurait contenu que des sentences, c'est-à-dire des déclarations faites par Jésus. Déclarations faites en dehors de tout contexte. Marc les aurait en quelque sorte contextualisées. C'est-à-dire qu'aux sentences de Jésus, il aurait ajouté certains épisodes pour créer en quelque sorte une aventure acceptable. Aventure acceptable qui aurait été peut-être basée sur des rumeurs récoltées ici et là. Matthieu est venu ensuite à accentuer les choses, c'est-à-dire il a augmenté le nombre d'histoires diverses. Et Luc, enfin, a encore accentué, c'est-à-dire il a encore ajouté d'autres éléments qui ne se trouvaient pas chez les deux précédents. Jean, je le répète, est tout à fait en dehors, puisque pour l'ensemble des événements de la vie de Jésus, il ne suit même pas du tout, je vais dire, la même chronologie. La durée de prédication chez Jean n'aurait pas été du tout la même que chez les trois autres. Enfin, il y a des différences énormes entre Jean et les trois autres. Mais bien entendu, ce sont des choses sur lesquelles les prêtres, lorsqu'ils lisent les évangiles dans leur église, n'insistent pas.
Comment est-ce que tu imagines un peu que se sont déroulés les événements? Dans ceux qui disent, qui défendent l'idée qu'il y a eu un Jésus historique, bon, ils imaginent qu'il y avait comme une sorte de prêcheur, guérisseur, comme il y en avait beaucoup en Israël à cette époque-là, et puis qu'à partir de là, il y a eu des couches littéraires qui sont ajoutées sur cette base historique. Mais s'il n'y a pas eu de base historique, comment tu imagines que les choses se sont déroulées?
Je pense que si on essaye de se placer aussi bien qu'on le peut dans le contexte et à la fois chronologique et géographique, c'était une période d'attente. Beaucoup de gens, étant relativement mécontents de ce qu'il se passait à l'époque, espéraient que quelque chose, un événement très important allait se produire. Et cet événement très important, dans les milieux juifs en tout cas, était l'attente du Messie, c'est-à-dire un être divin qui serait venu en quelque sorte arranger tout. Parce qu'il faut bien se dire que l'histoire elle-même du peuple juif avait été pour le moins tumultueuse et qu'à l'époque, les juifs se trouvaient sous domination romaine, ils avaient déjà été dominés autrefois, mais la domination romaine leur pesait extrêmement lourd. Et dans certains milieux juifs, on pensait que le Messie donc allait venir en quelque sorte balayer les Romains, et qu'il établirait sur terre une espèce de nouveau paradis, dont bénéficierait ce peuple élu qui était donc le peuple juif. Bien entendu, ces idées-là avaient contaminé probablement un certain nombre de gens qui avaient des espoirs plus ou moins semblables, qu'il allait se passer quelque chose. On trouve le même espoir à l'heure actuelle chez des gens qui croient aux ovnis et qui pensent que les pilotes de ces ovnis sont en quelque sorte les anciens anges dont on parlait dans la Bible et qui sont venus nous aider. Et qu'un jour viendra où tous les problèmes que nous connaissons, que ce soit des problèmes de pollution, de guerre, etc., seront en quelque sorte résolus par ces êtres venus du ciel et qu'une paix mondiale s'établira. Donc, à l'époque où on situe l'apparition de Jésus, on vivait dans cette impression, dans cette attente. Alors il aura suffi qu'un groupe d'individus prétendent que le Messie qu'on attendait était venu pour que des quantités de gens y croient assez facilement. ça sera passé probablement comme beaucoup de sectes naissent. On affirme une série de choses, on dit voilà, il s'est passé tel et tel événement, qui sont totalement impossibles à vérifier, mais on leur dit qu'il y a des conséquences à ces événements, et que notamment, il faut adopter un nouveau mode de vie, et qu'en adoptant ce mode de vie, propre au fondateur en quelque sorte de la secte, on ira au paradis. Et que le paradis, lui, il n'est pas de ce monde, il sera d'un autre monde, et ce sera quelque chose d'absolument merveilleux. Donc, on propose aux gens une vision du monde idéalisé, non pas ici-bas, mais dans un avenir, après leur décès. Ce genre de choses retient toujours l'attention de beaucoup de gens. On peut constater qu'il y a des gens qui acceptent ici-bas d'être relativement maltraités parce qu'ils pensent que dans l'au-delà, eh bien, ce sera un peu l'effet inverse. Plus leur vie aura été dure ici, plus belle sera leur vie dans l'au-delà. Bon, c'est une conception évidemment très séduisante, et je pense qu'elle a pu accrocher un bon nombre de gens. On a pu constater, par exemple, que les débuts du christianisme se sont faits dans un milieu qui était un milieu d'esclaves, d'ouvriers, et certainement pas de gens nantis. Donc, voilà le point de départ. Pour le reste, ben, il a suffi que les années passent, et chacun y a mis son grain de sel. Chacun a ajouté un petit événement. Les premiers auront dit, on a entendu dire que le Messie est venu. On ne l'a pas vu, mais on est sûr qu'il est venu. Certains l'ont vu. D'autres ont rajouté, ben, moi je l'ai vu. J'étais à tel endroit quand il était là. Donc, moi je peux dire qu'il était là. Ou bien certains auront dit, ben, moi je n'y étais pas, mais un de mes frères, un de mes cousins l'a vu. Il a entendu prêcher. Donc, ce sont des rumeurs qui, peu à peu, en se répandant, finissent par se cristalliser. Et à force de croire qu'il est venu, on finit par croire qu'il est bel et bien venu, et qu'il était comme ceci et comme cela, et qu'il avait été comme ceci et comme cela. Voilà comment j'imagine que les choses se sont formées petit à petit. En fait, c'est une rumeur qui prend corps de plus en plus.
Une des conséquences, quand on adopte l'hypothèse mythiste, c'est que, assez ironiquement, finalement, c'est... Enfin, je dis ironiquement, mais parce que c'est Paul le fondateur de l'Église chrétienne, enfin, du christianisme, et je dis ironiquement parce qu'évidemment, Paul a des tas de positions comme homophobiques, etc. Mais oui, ça, c'est assez paradoxal d'imaginer que c'est Paul qui serait à la base du christianisme.
Mais Paul n'est pas seul à la base du christianisme, justement. Il y a eu une rencontre. Et d'ailleurs, quand on relit les épîtres, donc les lettres que Paul a écrites à gauche et à droite, on se rend compte qu'il a été, à un moment donné, en but, avec des gens qui prétendaient avoir, eux, rencontré Jésus, avoir été très proche de lui, et on parle même de l'un ou l'autre qui se prétendait frère de Jésus, selon le sang. Donc, à mon avis, il y a eu plusieurs groupes à cette époque, qui chacun revendiquait l'une ou l'autre chose plus ou moins précise, et le christianisme est en quelque sorte la résultante de ces différents groupes qui ont en quelque sorte plus ou moins fusionné au niveau de leurs adeptes. Donc il y a eu des opposants, Paul contre quelques autres, notamment Jacques qui se présentait comme frère de sang de Jésus, et que certains appelaient Jacques le Juste, et je pense que du choc de ces individus seront nées des quantités de rumeurs et des quantités d'affirmations et de prises de position chez leurs adeptes. Et finalement, ce sont leurs adeptes, en l'espace d'une ou deux générations, qui ont fusionné pour former à ce moment-là un corpus solide qui avait toutes les apparences d'une religion tout à fait bien organisée. C'est pas quelque chose qui s'est fait en quelques jours ou en quelques mois. Cela a pris des décennies.
Au niveau de l'aspect vraiment narratif des évangiles, les miracles de Jésus souvent sont un peu des échos des miracles dans l'Ancien Testament, comme si les auteurs du Nouveau Testament recyclaient pour
essayer de... Tout à fait, le mot recyclage est tout à fait bien choisi. Bon, il y a quelque chose dont beaucoup de gens sont tout à fait ignorants, c'est qu'il existait à cette époque une idée, une théorie, selon laquelle toute phrase, tout mot d'un texte sacré, comme ce que nous appelons, nous autres, l'Ancien Testament, eh bien, ça peut se lire à la limite dans n'importe quel sens. parce que c'est toujours vrai. Donc il suffit d'aller piquer une phrase à bout de phrase, ici à gauche, à droite, et de le remettre dans un autre contexte, ce bout de phrase reste toujours vrai. Donc certains ont par exemple passé leur temps à aller rechercher dans l'Ancien Testament toutes sortes de phrases qui, mises bout à bout, permettent de reconstituer complètement le procès et donc la mise à mort de Jésus. Alors ça, c'est très intéressant parce que l'idée était que toute chose étant dite dans l'Ancien Testament trouverait un jour sa réalisation dans le futur. Et effectivement, si on crée de toutes pièces un texte, une histoire, au départ de bout de phrase, péché ici et là dans l'Ancien Testament, on peut dire, d'une manière donc, dans le concept même des esprits de l'époque, on peut dire que cette histoire est véridique, elle ne peut être que véridique. Donc on peut créer de toutes pièces une histoire avec des bouts de phrases et dire cette histoire est véridique puisqu'elle était écrite jadis, dans un livre sacré. Et donc, il y a là ce recyclage dont tu parles. On prend, en quelque sorte, des morceaux de texte, on mélange le tout, et on refait un nouveau texte. Donc les anciens textes sont recyclés pour en former un nouveau. Et on est obligé presque d'y croire, puisque c'est parole divine.
Comment est-ce que tu expliques le fait justement que la plupart des gens ignorent absolument ce genre de choses, et aussi souvent quand on parle de ce genre d'hypothèse ou de la thèse mythiste, ou ce qu'on va répondre, c'est que la plupart des historiens admettent l'historicité de Jésus et que ce sont des positions extrêmement minoritaires. Comment tu expliques ce genre de choses?
Mais là, Jean-Michel, je crois qu'il faut faire le procès des médias avant toute chose. Il m'est arrivé de discuter avec des journalistes de certains sujets, et alors je me souviens un jour dans un studio de la RTB qu'un des responsables de la RTB m'a dit, du service d'information m'a dit, comme c'était intéressant ce que vous avez dit là, on devrait faire cela plus souvent. Et lui ai-je dit, qu'attendez-vous? Alors, il m'a regardé d'un air un peu surpris, il m'a dit, vous avez raison, mais que vous dites-vous? C'est l'audimat. C'est l'audimat qui dirige, m'a-t-il dit. Donc, reprenons le raisonnement. Si la télévision ou la radio fonctionne, choisit des programmes en fonction de l'audimat possible, il est clair qu'on va avoir tendance à présenter aux gens des choses faciles plutôt que des choses difficiles. Et c'est vrai en tout. Si tu observes à l'heure actuelle l'évolution de beaucoup de chaînes de radio, lorsque j'étais gosse, nous avions sur n'importe quelle chaîne de radio populaire un mélange complet des genres. On passait aussi bien de la musique classique que de la poésie, du Brassens, du Ferrat, du Brel, que de la musique populaire, de l'Aznavour, de l'Edith Piaf, que de la musique beaucoup plus moderne, que ce soit du rock'n'roll ou ensuite les Beatles. Aujourd'hui, on dirait que des quantités de choses ont été supprimées. On nous sert pratiquement toujours le même type de musique. Ce qui fait que la culture musicale des individus, des jeunes à l'heure actuelle, est beaucoup plus réduite que celle que nous avions, nous, lorsque nous étions gosses. Il en est de même pour tout le reste au niveau des médias. On réduit, on resserre en quelque sorte de plus en plus la porte, je vais dire, de la culture. Jadis, lorsque j'étais gosse, j'étais par nature obligé d'aller chercher dans des livres de l'information. Donc il y avait tout un effort, mais il y avait aussi les conseils des bibliothécaires, etc., des libraires. Aujourd'hui, le jeune, il va voir sur Internet, il n'est pas conseillé, il creuse tout seul. Donc, en l'absence d'un maître qui peut essayer de le guider, de le conduire à réfléchir, à avoir le sens critique sur ce qu'il lit, sur ce qu'il observe, sur ce qu'il voit. Donc, il y a à la fois une démarche très différente maintenant chez les individus, et aussi sur ceux qui leur fournissent de l'information par rapport à une certaine époque. Alors je dirais que à l'époque où moi j'avais 20 ans, les gens étaient peut-être beaucoup plus curieux que maintenant sur des questions telles que les origines du christianisme. J'y vois une preuve dans le fait que, à l'heure actuelle, les livres qui sortent et qui discutent de ce sujet sont des livres à sensation, dans le style Jésus s'est marié, où il a eu une maîtresse avec laquelle il a eu un ou des enfants. Ils ont fait le tour du monde, ils se sont établis en France, en Angleterre, etc. Tout ça, c'est de la blague. Ça fait rire les historiens sérieux. Mais ça vend beaucoup de papier. Ça fait vendre beaucoup de papier. Donc, on va fournir maintenant aux gens des choses simplistes, des choses extraordinaires, sensationnalistes, qui n'ont rien à voir avec l'étude de l'histoire de manière sérieuse. Ça, ça va complètement les intoxiquer, et on passera à côté de choses extrêmement érudites, qui sont trop compliquées pour ces gens-là, parce qu'ils n'ont pas été éduqués à faire l'effort nécessaire pour avoir une démarche critique en lisant des ouvrages. D'où le succès du Da Vinci Code, qui offrait un merveilleux roman, rempli de choses qui, d'un point de vue historique, ne tiennent pas du tout la route. Mais voilà. Tandis que si on fait un livre sur les origines historiques du christianisme, on est certain, dès le départ, d'avoir très peu de lecteurs. Et on est certain aussi qu'on ne trouvera jamais d'éditeur pour l'éditer. Pourquoi ? Parce que, comme me l'a dit un éditeur français, de nos jours, les gens ne veulent plus des livres avec beaucoup de références bibliographiques, surtout si elles sont compliquées. Surtout pas des notes en bas de page, parce que ça, c'est trop difficile à lire. Voilà ce que m'a dit ce grand éditeur. Il a été jusqu'à me dire, pour un autre ouvrage, ce n'est pas celui dont nous parlons ici, mais pour un autre ouvrage, il a été jusqu'à me dire, réécrivez-le, mais d'une manière sensationnaliste. Alors là, je le prendrai peut-être. Le sujet est très intéressant. Le sujet est très intéressant, m'a-t-il dit. Moi, personnellement, il me passionne, mais mes lecteurs, eux, n'auront pas la volonté, la patience de le lire. Alors, à partir du moment où un éditeur considère lui-même que les lecteurs des ouvrages qu'il produit sont en quelque sorte des animaux, des moutons qui ne font que de bêler et de suivre ce qu'on leur dit de suivre, là, je trouve que c'est assez dramatique. Donc, s'il n'y a pas un changement radical au niveau de la mentalité des dirigeants des médias, nous en resterons toujours à ça. Ce sont des sujets dont on ne parlera pas. Et je te dirai une dernière chose. Si, par exemple, tu regardes les débats à la télévision, si on fait un grand débat, par exemple, sur Jésus, à l'occasion, par exemple, de Pâques ou de la Noël, on va inviter un rabbin, un prêtre, peut-être éventuellement un pasteur, quelqu'un qui fait partie du culte islamiste, mais on ne va pas inviter sur le plateau un historien. On ne va pas inviter un athée. Cela, c'est comme s'ils n'avaient pas le droit au chapitre. Donc, on invite des gens dont le métier, en fait, est de vendre en quelque sorte leur soupe, leurs croyances diverses, mais on n'invite pas quelqu'un qui a un sens critique et qui pourrait dire à ces gens-là, « Mais messieurs, tout ce que vous racontez est faux. » Voilà le grand problème. À partir du moment où les gens, dans leur fauteuil, en face de leur télévision, n'ont jamais vu dans un débat quelqu'un tenir de tels propos, ils imaginent que ces propos n'ont pas lieu d'être tenus, qu'ils n'existent tout simplement pas. Donc pour les gens, soit on est athée par convenance personnelle, soit on croit, et si on croit, forcément on doit admettre tout le reste, que tout ça est vérité. C'est assez catastrophique, mais c'est ainsi.
Moi j'ai pas mal fréquenté des protestants libéraux, et ce qui était assez étonnant, c'est qu'ils étaient capables d'avoir ce genre de raisonnement, ou de discours en tout cas, parce que je ne sais pas ce qu'ils pensaient dans leur fond intérieur, mais de discours sur l'Ancien Testament, ils vont dire bon, l'histoire de David et Goliath, évidemment que c'est une légende, c'est clair que c'est une légende. Mais par contre, dès qu'il s'agit du Nouveau Testament et dès qu'il s'agit de Jésus, bizarrement, là, ils ne tiennent plus du tout le même discours.
Tout à fait, il y a des blocages qui apparaissent. Je vais te raconter une anecdote. Je me suis trouvé, il y a de nombreuses années, en compagnie d'un prêtre érudit à l'abbaye de Maretsu, où l'on fait de très grandes recherches dans le domaine des textes bibliques. Et à un moment donné, ce prêtre m'a dit, ben oui, mais bon, on sait bien que, j'aime bien le « on sait bien » général, on sait bien que le péché originel, c'est un mythe, m'a-t-il dit. Par exemple, m'a-t-il dit, si tu vas au musée du Louvre, tu verras sur un sarcophage une femme prenant un fruit et le tendant à un homme. Ça remonte à Babylone et c'était déjà avant la Bible, m'a-t-il dit. Donc c'est un mythe. On sait bien, m'a-t-il dit, que le paradis, l'enfer, ça ce sont des choses qui ont été inventées parce que c'était commode d'expliquer aux gens toute une série de choses et de leur enseigner ainsi le bien, le mal et la nécessité qu'il y avait de faire le bien. On sait bien, etc., etc. Il a commencé à me dire on sait bien, on sait bien, on sait bien pour toute une série de choses. Et puis à un moment donné, je lui ai dit, mais imaginons un instant que vous receviez dans votre confessionnal une vieille dame qui vous dit qu'elle a peur des flammes de l'enfer. Allez-vous lui dire que l'enfer n'existe pas? Il m'a dit, mais pas du tout. Si cette personne a besoin pour bien vivre d'avoir en quelque sorte la peur aux entrailles, de se dire, mon Dieu, si je fais le mal, j'irai en enfer. Mais c'est très bien ainsi, m'a-t-il dit. Au moins, va-t-elle rester sur le droit chemin. Voilà le raisonnement. Donc, ce prêtre était d'avis qu'il pouvait mentir sciemment à une de ses paroissiennes, à la limite, pour son plus grand bien. Et il reconnaissait que la plupart des choses dont il me parlait étaient effectivement des mythes. En revanche, bon, il avait quelques blocages aussi, comme ceux que tu viens de signaler, au niveau de la vie de Jésus. Là, pour lui, il n'y avait rien qui fût mythique. Mais pour tout le reste, là, effectivement, il me disait, ben oui, on sait bien que le monde n'a pas été créé en 7 jours, on sait bien que. Donc, la question que ce prêtre ne se pose pas, c'est qu'il y a évidemment des tas de gens qui ont une croyance simpliste, complètement aberrante, finalement, hein, leur croyance leur faisant croire à des choses qui sont complètement irréalistes. Mais pour ce prêtre, c'est pas ça qui est important. L'important, c'est d'utiliser des moyens qui, en quelque sorte, forcent les gens à rester dans le droit chemin. C'est extraordinaire comme raisonnement.
C'est paternaliste comme attitude, c'est vraiment prendre les gens pour des moutons qu'il faut guider.
C'est tout à fait paternaliste et on retrouve le même raisonnement que je te signalais tout à l'heure pour les médias où cet éditeur qui me disait « mes lecteurs ne sont pas capables ». C'est un peu fort que des individus cultivés s'autorisent, s'octroient le pouvoir de décider ce qui est bien ou ce qui est mal pour les gens pour en quelque sorte les aider. Moi je trouve ça absolument extraordinaire, mais c'est finalement une attitude très répandue. Prend l'attitude des politiciens qui viendront t'expliquer que s'ils ont décidé de faire telle ou telle chose, c'est pour le bien de la population. Et comment justifieront-ils? Ils diront, mais nous avons été élus par cette population, nous sommes là pour la représenter. C'est un peu le même système.
Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ton actualité? Sur quoi est-ce que tu es en train de travailler pour le moment? Est-ce que tu as des projets d'ouvrages ou d'articles ou de ton site web?
Oh, dans l'immédiat, j'ai un ouvrage qui va sortir d'ici, je crois me souvenir, ça doit être le mois d'octobre. Ce sera la dernière version des nombreux travaux que j'ai pu faire sur Georges Adamski. Georges Adamski, pour moi, reste un exemple tout à fait typique et incontournable de ce qu'ont pu être les contactés en matière d'OVNI. Donc je démontrerai dans cet ouvrage, comme je l'ai déjà fait de nombreuses fois dans des travaux qui ont été moins diffusés, je démontrerai qu'Adamski a menti depuis le premier jour jusqu'au dernier. Que tout ce qu'il a raconté était en fait, je vais dire des mensonges, il faut le dire comme c'est. Et là aussi, il y avait de sa part à la fois une volonté d'informer les gens pour ce qu'il estimait être lui, être la morale et la philosophie la plus adéquate qu'il pouvait imaginer, mais il y avait aussi chez lui une volonté de, je ne vais pas dire s'enrichir, mais en tout cas de vivre grâce à cela. Donc, il avait un peu la même position que certains prêtres, qui à la limite n'y croient plus beaucoup, mais restent dans le système parce qu'ils en vivent. Je pourrais dire la même chose de certains ufologues, je ne citerai pas de nom, mais il y a des ufologues qui savent très bien que ce qu'ils défendent n'est pas tenable, mais ils continuent à le défendre parce que, justement, soit ils en vivent financièrement, soit ça leur permet d'avoir une apparence originale. Ça leur permet de montrer qu'ils sont plus malins, plus intéressants que l'homme vulgaire, l'homme de la rue. Voilà, ça c'est une attitude qui se rencontre très souvent aussi chez des gens. Ils ne se sentent pas heureux dans leur métier, dans leur carrière, et ils ont envie de briller d'une autre manière. Et alors, bien souvent, ils s'orientent vers des sciences parallèles, vers des choses extravagantes. Et là, évidemment, ils trouvent toujours des naïfs qui vont finir par croire ce qu'ils racontent. Donc, on va plutôt éditer pour moi cette dernière version de mon livre sur Adamski. Il y aura pas mal de choses ajoutées par rapport à tout ce que j'ai déjà pu dire sur le sujet. Et je le répète, pourquoi à nouveau faire cela? D'abord, parce que cette fois-ci, c'est un éditeur qui me paraît avoir quand même un bon rayonnement. Donc l'ouvrage sera certainement mieux connu que tout ce que j'ai pu faire auparavant. Cela aidera évidemment des gens qui sont toujours à l'heure actuelle sous la coupe de ces croyances décontactées. Il y a encore toujours des gens qui croient en Adamski et à tout ce qu'il a raconté. Et ça aidera aussi, je l'espère, au-delà de l'ouvrage en lui-même, si les gens veulent y réfléchir, ça aidera des gens à pouvoir mieux comprendre la manière dont un individu a fait retort peut s'y prendre pour créer de toutes pièces une secte, pour créer de toutes pièces des histoires auxquelles on peut croire, des histoires merveilleuses auxquelles finalement d'autres gens peuvent croire. Rien qu'à ce niveau, je crois que ça peut être intéressant. Sinon, je n'ai pas vraiment d'autres projets. J'en ai à très long terme, des projets qui n'ont plus rien à voir alors avec le fantastique. Ce sont des projets plus historiques. Mais je te dirais franchement, Jean-Michel, que lorsque je vois la façon dont les choses se passent, dont les choses évoluent, je suis de moins en moins enclin à éditer quoi que ce soit. Parce que je dirais, en finalité, on ne parvient jamais à convaincre que ceux qui sont déjà convaincus. Et le plus intéressant, c'est d'essayer de montrer à des gens des voies, des chemins à suivre, mais pas de les suivre pour eux en espérant qu'ils sauteront dans le wagon, si je puis dire. Ça, c'est inintéressant. Voilà, donc, oui, j'ai un projet, j'en ai même d'autres, mais il n'est pas sûr du tout que les autres, je les réaliserai.
Ouais.
Pour la raison que je viens te dire.
En tout cas, je suis impatient de lire ton nouvel ouvrage sur Adamski.
Merci. Je te l'offrirai.
Merci beaucoup. Et merci d'être venu sur le balado.
Ça a été un plaisir, Jean-Michel, et je te souhaite beaucoup d'interviews intéressantes. Et surtout, j'espère que tu garderas cette grande ouverture d'esprit que tu as. Parce que les gens ont tendance à croire que des sceptiques comme toi sont des êtres bornés. Et c'est souvent tout à fait l'inverse. Parce que pour être sceptique, pour être un vrai sceptique, il faut savoir balancer, peser les choses entre elles et choisir entre toute une série de possibilités. Le faux sceptique, c'est celui qui affirme en vertu d'un dogme. Et donc, en ce sens, il est identique au croyant. Mais toi, tu es un vrai sceptique. Tu t'informes, tu essaies de faire la part des choses. Et ça, c'est la meilleure des démarches. Et c'est une démarche, je suis certain que tu le sais, qui est passionnante et qui t'offre beaucoup de réalisations intéressantes dans la vie.
Ok, ben ça ne sera notre mot de la fin. Encore merci et au revoir.
Au revoir. Au revoir, Jean-Michel.
Want to know how to live skeptically and still have friends? Well, so do I. Join me for Actually Speaking, a new podcast that explores the human side of skepticism. We'll set the science aside and discuss familiar skeptical topics from an interpersonal perspective. Along the way, we'll highlight specific social and communication skills needed to promote critical thinking. Scientific facts are only part of the equation. Let's take an extra step and learn how to share that knowledge effectively. Actually Speaking, a podcast that explores the human side of skepticism, critical thinking, and the skills we need to make it through the day. Visit actuallyspeaking.com to learn more.
Nous voici arrivés à la fin de l'épisode. La semaine prochaine sera une interview de Stéphane François et Emmanuel Kreis. Stéphane François est historien des idées, politologue, et Emmanuel Kreis est un doctorant à l'école pratique des hautes études. Et nous discuterons avec eux de leur nouvel ouvrage qui s'intitule « Le complot cosmique ». Et il s'agit d'un ouvrage consacré aux théories de la conspiration en ufologie. Mais il ne s'agit pas, on ne va pas discuter des théories de la conspiration, disons, standard en ufologie. En ufologie, si vous voulez défendre l'hypothèse extraterrestre, il y aura toujours vous aurez toujours besoin d'une solide dose de conspirationnisme, par exemple autour de l'affaire Roswell, etc. Bon, en disant que les gouvernements tendent à nous cacher les preuves des visites extraterrestres. Nous ne discuterons pas vraiment de ces théories de la conspiration là, mais des théories conspirationnistes plus extrêmes ou plus marginales que l'on trouve en ufologie, telles que par exemple l'idée que les soucoupes volantes ont été construites par les nazis, par exemple, qui sont des idées beaucoup moins populaires, moins standards, mais qu'on trouve quand même, il faut bien l'avouer, dans la littérature ufologique. Et donc nous discuterons de ça avec les auteurs de l'ouvrage Le complot cosmique. Pour terminer cette émission, je vais vous passer la bande-annonce d'un documentaire qui s'intitule « The God Who Wasn't There », qui est un documentaire consacré à la thèse mythiste.
et qui contient des interviews, entre autres, de Sam Harris ou encore de Robert M. Price. C'était Scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison. Je suis votre hôte Jean-Michel Abrassard. D'ici là, la semaine prochaine, sceptiquement vôtre.
I'm sick and tired of hearing about all of the radicals and the perverts and the liberals and the leftists and the communists coming out of the closet. It's time for God's people to come out of the closet, out of the churches, and change America.
We've got to raise up an army of men and women in America to call this nation back to moral sanity and sensibility.
My friend, God Almighty does not hear the prayer of a Jew, for how in the world can God hear the prayer of a man who says Jesus Christ is not the true Messiah?
I agree with capital punishment, and I believe that homosexuality is one of those that could be coupled with murder and other sins. It would be the government who would be executing the homosexuals.
Are you ready for the Lord's return?
22% of Americans claim to be certain that Jesus is going to come back to Earth sometime in the next 50 years.
Speeding planes will plunge unsuspecting passengers into a black eternity as Christian engineers are snatched from the throttle.
Personally, I think it's going to happen within my lifetime.
Another 22% think he probably will.
The first several decades of Christianity had no historical Christ.
Mark himself probably did not believe he was writing history. He was writing a symbolic message. He was writing a gospel.
The stories in the New Testament are legends.
Jesus was not the first character to be born of a virgin, to be adored by wise men, to heal the sick, to suffer and die on a tree or a cross, to be buried in a tomb and to rise again on the third day. Only to ascend into the sky. This had happened before. This is an old story.
Jesus' life does conform to the hero pattern.
And Christianity's way of dealing with this problem is to ignore it.